Chapitre 4 Les grottes. Martin Dumas avait donné une consigne. Les hommes l'exécutaient admirablement. Il fallait ne pas se découvrir, se tenir aux environs sans se faire remarquer. Il fallait se cacher tout en ne perdant pas de vue la villa où se trouvait le chef. Enfin, il fallait aussi laisser passer tout le monde à travers le cordon de garde. Tous ceux, bien entendu, qui se dirigeaient vers la villa. Car ceux qui venaient en sens contraire, on ne leur permettait de poursuivre leur chemin que quand ils avaient montré patte blanche. Puis on devait, la nuit venue, peu à peu, se resserrer, se rapprocher de la villa. Alors, sans aucun doute, l'événement attendu se produirait. De nouveau, la bataille s'engagerait entre le roi des bandits et le célèbre roi des détectives Martin Dumas. Cette fois, ce devait être fatalement être une bataille décisive, comme le dernier combat, un duel sans merci, à mort. Pendant que Martin Dumas donnait ses ordres à ses hommes, qui se disposaient à repousser l'attaque dont il pressentait l'imminence, de son côté, le roi des bandits faisait également ses préparatifs pour combattre son implacable ennemi. De retour de Melun, il se prépara à commander lui-même la manœuvre. Le commandant descendit de voiture, non dans la forêt dont il pouvait soupçonner les allées principales gardées par des hommes de Martin Dumas, mais sur le bord de la Seine, sur le chemin de halage. Il mit donc pied à terre. Mais en descendant de voiture, le commandant et les hommes qui l'accompagnaient avaient une courte, toute nouvelle physionomie. Le commandant gardait encore ses moustaches et sa barbiche grise. Mais il avait abandonné sa redingote ajustée, son pantalon clair et ses guêtres. Il portait une sorte de veston assez collant, de couleur gris-bleu indécise, mais qui se confondait bien avec la pénombre et s'éteignait dans le gris de la nuit et disparaissait dans la verdure. Un homme ainsi vêtu devenait presque invisible. Ces hommes portaient un costume à peu près semblable. Aux pieds, ils avaient des bottes qui comportaient, comme celles de Martin Dumas, des semelles silencieuses et solides, non glissantes. Sur la tête, une sorte de cape de forme anglaise, coiffant bien le crâne, mais contenant sous le drap une calotte en cuir bouilli, fortement casqué, mettant la tête à l'abri d'un coup de canne, de massue ou de sabre. Non loin de Bois-le-Roi, au bas du petit bois du Coulant, qui serait, si l'on peut dire, comme un faubourg de l'immense forêt de Fontainebleau, se trouvent des carrières de grès, aujourd'hui abandonnées. Ces carrières ont servi du temps du grand roi. C'est de là, comme de toutes celles de la forêt d'ailleurs, que le roi Soleil faisait extraire les énormes pavés des routes royales. Mais elles furent abandonnées après un ou deux siècles d'exploitation. Il ne reste donc de ces diverses exploitations que d'immenses carrières. Les unes sont à peu près comblées par les éboulements, les autres sont envahis par une végétation superbe qui les cache aux yeux des touristes, ne connaissant de la forêt que ce que portent les cartes rudimentaires. Il faut d'abord connaître l'existence de ces grottes, puis ensuite savoir où elles se trouvent. Enfin, pour avoir, pour ainsi dire, le secret de leur entrée, une sorte de sésame qui donne, si dans l'ouverture des portes qui n'existent pas, du moins le moyen de pénétrer dans ces sortes de souterrains. Le commandant et ses hommes devaient fatalement connaître non seulement l'existence de ces repères de brigands, mais en surplus à en posséder la topographie dans leurs moindres détails. Pour eux, c'était un refuge admirable. Mais il allait sans dire que Martin Dumas ne les ignorait pas non plus, et que, sinon tous ces hommes, tout au moins Prosper, Philippe, y étaient venus à diverses reprises. Martin Dumas y revint au cours de la poursuite du roi des bandits, qui croyait avoir reconnu sous le masque du vieux général. Martin Dumas, seul, ou avec un de ses deux lieutenants, avait de nouveau parcouru les fameuses grottes de Grès. Il acquit la certitude que des hommes y venaient assez fréquemment. « Ce peut être des cheminots, expliqua-t-il à ces hommes, car les cheminots ne prennent pas cette route qui les écarte du chemin habituel. De plus, les cheminots, quand ils cherchent un abri dans une grotte, dans un refuge quelconque, quand ils installent en somme leur campement, font toujours du feu pour cuire leurs aliments. C'est leur habitude. Or, ici, on ne trouve pas les traces de foyer. Pas de cendre, pas de charbon, pas de grosses pierres noircies sur lesquelles on a posé la misérable qui contient l'innombrable repas de ces malheureux. Oui, la cuisine des bohémiens. Donc, les individus qui y viennent ne sont pas des nomades qui cherchent un refuge, qui élisent domicile dans ces grottes, mais des gens qui s'y donnent rendez-vous, qui n'y séjournent que peu de temps. De plus, ce sont des gaillards qui ne tiennent pas à laisser des traces de leur passage, à permettre de voir qu'ils viennent ici, car ils ont soin de ne pas casser de branches en se faufilant, de pas faire de briser, comme on dit en vénerie. Ils ne viennent ici qu'avec certaines précautions. Oui, on ne voit rien. Ainsi, on doit relever les ronces qui barrent le chemin, qui ferment à l'entrée comme une porte, afin d'ouvrir un passage, de nouveau fermé au départ. Pour se rendre compte de cela, il fallait être Martin Dumas, et avoir cette merveilleuse faculté de voir ce qui échappait aux yeux les plus éclairés. En effet, quiconque passant devant ces grottes eût été frappé par les ronces entrelacées, les défendant tout aussi bien qu'une porte de bronze. Devant les grottes s'étendait une barrière infranchissable, une haie épaisse, dure, de nerprin, d'aubépines, de ronces et d'églantiers. Chaque arbuste était relié au voisin par de multiples lianes pleines d'épines, de crochets. Le sol lui-même en était tapissé. Le malheureux qui se serait aventuré dans ce dédale y eût laissé non seulement ses habits, mais pas mal de sa peau. Et cependant, ces grottes recevaient de fréquentes visites. Martin Dumas et ses lieutenants cherchèrent par où les gens qui venaient pouvaient entrer. À des yeux comme les leurs, le secret ne pouvait longtemps échapper. « Voilà !» dit Martin Dumas, « voilà le chemin !» Il avait une canne de touriste à la main. Cette canne, il la glissa sous un épais bouquet de ronces qui étendait ses rameaux crochus au loin. Et d'un effort violent, il souleva tout un côté de ce tapis de ronces. Ces ronces se relevèrent et allèrent se placer dans un bouquet d'aubépines. Deux branches de ces aubépines s'entrecroisant les retinrent. Ainsi, la place fut suffisamment déblayée pour que, sur un espace de 6 mètres environ, Martin Dumas puisse avancer sans être accroché ou retenu par les épines. Et Martin Dumas renouvela la manœuvre. Un nouveau tapis de ronces se releva et s'attacha facilement aux branches d'un autre pied d'aubépine. « Mais nous avons le chemin !» s'écria Martin Dumas. Et voilà comment les gens qui viennent ici opèrent pour passer. C'est là, dans ces grottes, dont il croyait le secret de lui seul connu, que le commandant avait établi son quartier quand il venait à Bois-le-Roi et qu'il épiait son ennemi, le roi des détectives.